l'augmentation de notre conférence de soir, ça a eu une hausse chronique, cette biologiste, née en 1968. Son parcours, c'est un parcours de formation biochimie et génétique moléculaire à Dijon, Lyon et Londres. Il a fait sa thèse entre 93 et 97 au Max Planck Institut de génétique moléculaire à Berlin sur la cartographie physique du chromosome X et Y. De 97 à 2003, il a cherché le génotope du Centre national de séquençage à Paris sous la direction de Jean-Luc Dumas, qui vient d'en parler le dimanche 15 juin. Depuis 2004, le chef d'équipe du ministère de recherche CNRS, 1841, le commandant Matricolaire, sur l'analyse bioinformatique des génomes de l'intégré. La bibliographie n'a pas encore écrit de livre de vulgarisation, je crois qu'il commence ce soir, mais c'est une bibliographie 40 scientifiques. Et fourni, et je vous remercie de la dernière fois parce qu'elle est très compliquée à énoncer. Et nous renvoie au site internet où ceux qui sont intéressés techniquement par ces questions pourront trouver la recension de certains de ces articles. Donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, 50 à 60 minutes, puis ensuite, comme d'habitude, une grosse chronique répondra à vos questions. Merci.
Merci M. Michaud. Donc, parce que la vie est une vaste question à laquelle je n'apporterai évidemment pas de réponse très précise ce soir. En revanche, le sujet que vous avez abordé, c'est plutôt comment les chercheurs aujourd'hui sont capables de lire et d'interpréter les instructions qui sont contenues dans le génome et qui permettent à une cellule ou un organisme vivant de fonctionner. C'est un petit peu plus pratique comme réponse. Donc, depuis 10 ans, on est capable de lire la séquence des génomes, de se faire de manière aujourd'hui quasi industrielle dans d'énormes centres par le monde. Par contre, la tâche suivante, qui est d'interpréter cette information, est beaucoup plus difficile à réaliser et encore un champ de recherche des émerges. Donc, lire et interpréter cette information requiert deux disciplines scientifiques, la biologie et l'informatique. C'est un petit peu le fil rouge de cette conférence ce soir. Deux disciplines scientifiques qui, de prime abord, pourraient sembler un petit peu antinomiques. La biologie, millénaire, qui s'occupe d'écrire le fonctionnement du vivant. Donc, il y a des organismes dynamiques toujours en pleine en constante évolution, tandis que l'informatique se repose plutôt sur la logique de raisonnement mathématique, et c'est une science qui s'est évoluée beaucoup plus récemment. Cependant, aujourd'hui, analyser le titan des génomes requiert l'émergence d'une nouvelle discipline dans l'interface entre ces deux disciplines et de l'informatique qu'on appelle la bioinformatique. Donc, pour les années 80-90, cette discipline est difficile à cerner parce qu'elle peut intervenir beaucoup d'autres disciplines de recherche, comme la biologie informatique, mais aussi les mathématiques, les statistiques, beaucoup de sous-disciplines de la biologie, l'évolution, la biologie du développement, la biochimie. Donc, un petit peu spécialiste de tout, mais pour pouvoir interpréter cette séquence comme élément. Donc, revenons un petit peu aux bases. Le génome, donc, c'est le support de l'information génétique, et la principale information à retenir d'abord, c'est très grand. D'où la nécessité du traitement informatique. Depuis 15 ans maintenant, la génomique est entrée dans une phase de production industrielle. Donc, on peut comprendre qu'ils ont nécessité. La première fois qu'il y a la phase de biologie, la nécessité de collaborer avec le monde pendant les frontières, comme c'est la situation depuis un certain temps déjà en astronomie ou en physique nucléaire. Donc les biologistes ont créé de grands réseaux collaboratifs pour générer des masses de données très importantes. Grâce aussi à une automatisation croissante des appareils. territoriale de notre Union, développer de nouvelles approches sur le domaine de la bioinformatique pour interroger et analyser et comprendre ces nouvelles données. Donc, je reviens un petit peu à des débats fondamentaux qui sont les termes pour comprendre la partie de cette présentation. Donc, le génome à l'intérieur d'une cellule, et cette année, donc, nous en portons des milliers de milliards de notre corps. À l'intérieur des noyaux des cellules se trouvent des chromosomes, et ces chromosomes sont chacun une longue suite de séquences d'inscription qu'on appelle la molécule d'ADN. Si on regarde cette molécule d'un petit peu plus près, elle a une structure très particulière qu'on appelle le double hélice, donc deux rubans enroulés l'un autour de l'autre. Chacun porte une information complémentaire de l'autre. Complémentaire, si on regarde chacun des composants de la double hélice, le premier ruban ici est composé d'une séquence de 4 molécules, adénine, thymine, guanine ou cytosine, qu'on appelle généralement sous A, T, G et C. Une adénine est toujours en face d'une thymine sur l'autre bras, et une guanine ou une guanine. Une guanine est toujours en face d'une cytosine sur l'autre bras. Donc en fait, si on lit l'un des deux bras, on a l'autre par complémentarité. Donc la plupart du temps, dans les analyses informatiques, on peut mettre l'un des deux bras. Donc, si on veut avoir l'information sur l'autre, il suffit d'utiliser ce type de connexion invertée pour le bras, déversé, s'émerger, pour avoir l'autre bras. Donc, si on s'en génome, ça revient à lire la séquence des 4 lettres le long des chromosomes. Donc là, on a mis 7 chromosomes humains, typiquement, on contient 260 millions. L'ensemble des chromosomes humains contient environ 3 milliards. 6 milliards, si on compte bien. Thank you. collègues de l'université, c'est qu'aujourd'hui, pour la biologie, c'est dans son laboratoire, dans son laboratoire, on nous demande de se mettre dans la base de données en même temps qu'un descriptif de ce qui a été séquencé, la base de données, la latitude et la longitude de la frontière. Et là, vous avez été représenté sur cette carte du monde. Depuis 2005, c'est à l'époque où on demande aux chercheurs de chercher la position géographique de l'échantillon. C'était 13 millions de séquences qu'on peut exprimer, représentant plus d'une mille positions géographiques. Donc, c'est une manière pour vous montrer que la complexité de l'information est étendue. L'ensemble du nom des espèces vivantes qui a été séquencé couvre également une très large champ, qui est aussi représenté sous forme de volume. Des fréquences appartenant à chacun des grands domaines de classification des vivants. Donc, vous avez le commandant de Sénégal, qui est un chiffre FN, c'est une statistique qu'on trouve sur les centres, les centres de séquençage, qui est un ordinateur attribué au génome humain et à la base de données. Vous en attirez aux autres mammifères que l'humain et la souris, et les rongeurs et les scientifiques. Les autres vertébrés, donc le poisson, le poulet, le poulet, sont également ici. On a les champignons en marron, on a les plantes ici en fait, les bactéries en bleu. Donc, quand on fait le total des vertébrés, on a plus de 70% du total de 200 milliards de bases qui sont dans la base de données, sur le total des vertébrés. Pas forcément parce que les vertébrés sont plus importants, mais c'est quand même un très très gros génome, et donc en volume, on prend beaucoup de place. Donc, pour résumer cette première partie un peu d'introduction informatique, on peut appliquer dès la production de ces plantes ADN, déjà pour contrôler les machines, pour déjà pour interpréter les plantes fluorescentes qui sortent des séquenceurs, les expériences du début du séquençage, avec des produits de ces différents plantes, qui vont sortir des marqueurs fluorescents, c'est bien en gros. Mais c'est un peu lumineux qui sort de la machine, et puis on peut recruter le fond de la et donc quantifier combien de lumière pour la portée du signal, parce que je peux faire A, c'est un A, peut-être un G, ça c'est des problèmes qui me font. Et donc on peut les contrôles qualité, transférer l'information générée par chacun des machines, des serveurs centralisés, et puis une étape extrêmement importante dont on va répondre par les sous-sens, c'est l'assemblage. Parce que chaque machine est capable de lire quelques dizaines, voire centaines de bases de ce que tu as. Un génome, un chromosome, par exemple, c'est une suite continue de 200 millions de bases. Donc, l'étape plus importante à suivre pour le séquençage, c'est rassembler ces petits morceaux en une suite continue qui représente le chromosome. Vous pouvez imaginer que c'est un puzzle de plusieurs millions de pièces qu'il faut rassembler. Et pour compliquer les choses, certaines pièces sont identiques mais n'ont pas au même endroit. Donc, c'était une opération qui était réalisée uniquement par un programme informatique et des ordinateurs extrêmement puissants. C'est pas parfait. Donc, le programme va rassembler un jeu de données des génomes humains en une séquence continue. Et puis, un autre programme, développé par le groupe, va prendre les mêmes données et pas les données. Et on va rendre légèrement différent. On a mis les pièces à tout à fait au même endroit. Donc, on rentre dans une zone de variabilité de l'information. Et puis, une étape très importante pour nous, justement, en aval avec ce processus de production, c'est la centralisation des données pour s'en retrouver les sous-ressources. Effectivement, quelles sont ces bases de données, qui sont des pierres d'ordre de toute la recherche génomique aujourd'hui dans le monde. Malheureusement, depuis presque 20 ans, dans le monde qui sont dévoués à cette tâche qui est laborieuse, à la fois, on va dire, parce que c'est elle qui est le premier point de. L'actualité qu'on peut trouver des découvertes, mais qui sont celles sans faire de source, on ne peut pas faire ces découvertes. C'est vraiment une première base de données aux États-Unis. Dès que Beijing, une deuxième base de données au Japon, commencé par les Japonais, la troisième en Europe, qui se trouve en Angleterre, et en Belgique. Donc ces trois bases de données sont quasiment équivalentes parce qu'elles échangent chaque nuit toutes les fréquences qui leur sont soumises par les chercheurs des différents pays. Donc, c'est équivalent, on va dire. Et puis au-delà de cette base de données qui est un peu plus d'informations brutes, on a la base de données plus spécialisée qui ajoute une certaine valeur sur la séquence, une valeur ajoutée. On peut se faire ensemble, par exemple, qu'il y a vraiment une paire d'ordres de toutes les recherches sur les génomes de vertébrés. On centralise la fréquence des génomes de vertébrés connus et on ajoute l'information, par exemple, sur la position des gènes, d'autres c'est une autre, on a des données qui allant directement en tant que plantes. Donc, elle a biologie, mais aussi, elle n'a pas tant d'importance à l'agronomie. Un autre délivre de génome, mais dans les données en même temps, c'est la base de données de l'UCLC, l'Université de Californie, Santa Cruz, qui est très populaire sur les États-Unis, qui est très active sur les actions pour aller développer dans les données. Et puis, pour les repérer, on a parlé de la ressource de l'Internet. Il y en a d'autres. Donc, c'est pour un vrai contexte essentiel pour en aval, pour le travail d'interprétation de séquences. Donc, pour résumer, l'information de séquence est automatisée, elle est standardisée, elle est standardisée, synchronisée, et elle est plutôt de contrariété. C'est rare en biologie d'avoir des informations brutes comme ça, parce que c'est pas sujet à l'interprétation. Pas ce programme, on ne peut pas télécharger sans avoir des données ambiguës. Il n'y a pas d'autre moyen d'interpréter la donnée que d'autres qui nous donnent. Et donc, c'est une information qui est très facile à échanger entre biologistes. Une séquence de l'ADN, c'est un fichier informatique très facile à envoyer par Internet, à partager à travers les langues sans un souci d'interprétation. Des informations qui se prêtent idéalement à l'utilisation de l'ordinateur. Justement, le reste de cette conversation, je vais concentrer sur comment est-ce qu'on peut extraire de l'information interprétable par les humains pour savoir comment la cellule fonctionne. Puisque si on utilise l'information, ça va lire, ça va interpréter, parce que nous, on est capable de faire des données. Donc, justement, c'est bien que cette information, c'est le gène, c'est ce qui va nous tirer. C'est ça. En espérant qu'en trouvant les gènes, on va les comprendre comment les gènes fonctionnent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas comment les gènes fonctionnent, malgré le fait qu'on sait. Donc, on sait aujourd'hui définir la position de tous les gènes dans le génome, parce qu'il y a différentes couches d'informations qui nous manquent encore. Justement, au-delà des gènes, les autres informations essentielles, c'est toutes les régions dispersées entre les gènes qui spécifient aux gènes. Étant ou pas s'exprimer, fonctionner. Certains gènes vont s'exprimer que pendant le développement de la mère, d'autres ne vont s'exprimer que en réaction à une blessure, d'autres vont s'exprimer à d'autres moments de la vie. Ce n'est pas spécifique, mais c'est donc des tissus très spécifiques uniquement dans le cerveau, uniquement dans le foie, uniquement sur la peau. Donc, malgré tout, toutes les cellules ont le même génome, mais le programme d'expression des gènes est différent de celui de la cellule. Et ça, ce sont des petites régions très difficiles à modifier dans les génomes qui vont spécifier l'utilisation de ces gènes. Chaque cellule contient environ 2 mètres d'ADN. Les chromosomes de tabou, c'est environ 2 mètres d'ADN. Donc c'est un fil, vraiment, mais aussi très fin, de 1 mètre de large environ. Donc il ne faut pas le comporter, mais il faut pas le ranger. L'organisme, et donc il y a d'autres régions dans l'ADN qui servent à être compatibles avec ces gènes pour pouvoir stocker l'information. Et l'ADN se déplique, se réplique entre les divisions cellulaires, et pour cela il faut d'autres séquences cachées dans la séquence ADN pour maintenir la pilotée des molécules au cours de la division. Il y en a bien d'autres qu'on ne sait même pas imaginer. Donc la première question qui a motivé le potentiel de l'ADN, c'est trouver les gènes, donc est-ce que c'est un gène? On va revenir sur un terme que Bernard Degon s'est invité hier à présenter, mais il reste quand même vrai aujourd'hui. Simplement, le terme initial qui a été établi il y a plusieurs dizaines d'années est très incomplet. Mais pour le raisonnement d'aujourd'hui, il est tout à fait correct. Et donc, ce que l'ADN sert de la matrice d'instruction pour fabriquer des protéines. Il y a un intermédiaire par contre entre les deux, c'est l'ADN. Un présent qui beaucoup plus énergique. On voit ici, on voit l'artiste, donc il montre bien la situation. On a une cellule, donc c'est cette enveloppe qu'on voit dans le fond. À l'intérieur, il y a un noyau, dans le noyau, il y a l'ADN. Ici, on a une molécule d'ADN qui va prendre d'être lue par l'ensemble de protéines, une maçonnerie protéique, qui va synthétiser un grain d'ARN complémentaire de la molécule d'ADN. Donc, on peut cultiver de la molécule d'ADN uniquement à l'endroit où il y a des gènes. C'est très important pour l'étude des opérations. Donc, cette molécule d'ADN est subie à différents traitements et surtout à être portée par des petits trous qu'on appelle des pores nucléaires dans l'espace intracellulaire. Donc, on voit des petits trous qui une attraction, on lui met une bonne profite pour aller dans un petit espace qui est cet espace intérieur. Et là-dedans, eh bien, un autre réseau de protéines, un autre machinerie moléculaire va le prendre en charge et le lire pour synthétiser les protéines. Donc, on voit ici. Donc, ça, c'est-à-dire le point de vue de la gestion du problème, de manière un peu plus schématique, on utilise les séquences ADN avec différents gènes. Les uns derrière les autres, dans la chaîne que j'ai pris dans les bases de données pour donner quelques illustrations. Et donc, ça a été un contenu d'une séquence d'instructions qui sont symbolisées par les petites boîtes de couleurs aussi. Les séquences d'instructions qui sont les exons. Donc, pour les exons, il y a une information qui est très utilisée pour faire la protéine, qui est uniquement les boîtes de couleurs, les exons qui sont utilisés. Si on fait la somme de ces exons, dans le génome, ça représente 1,5% de tout l'ADN du génome. 98,5% ne servent pas à la synthèse de protéines, c'est la très grande majorité. Donc, une grande question en paradoxe qui a beaucoup perturbé les biologistes, c'est de quoi faire cette masse de graines qui, finalement, au début, pour se compte, ne rien, puisque l'essentiel du génome sera de l'information des protéines. Aujourd'hui, on a une réponse un peu plus complète à cette question. Mais, ne serait-ce que le nombre de gènes également était maintenu pendant encore trop longtemps. Je vais vous tout à l'heure un peu historique de cette progression, mais aujourd'hui, on sait que le nombre de gènes est proche de 23 000. Mais on n'est pas sûr. Chaque mois, les biologistes et les informaticiens font l'analyse de ces de génome avec les mêmes ressources qui sont à notre disposition et une conférence de quelques gènes qui stabilise autour de 2500-23 000. Il y a quand même des choses qui sont très bien terminées, même si, vraiment, on sait bien identifier la position des gènes. Donc, il y a 3 gènes dans 3 milliards de bases, c'est bien trop grand pour le faire gène par gène. Donc, on a beaucoup de grands ordinateurs, chacun, pour mission d'adapter les gènes pour la compte, c'est une tâche beaucoup trop coûteuse, donc il est certain que c'est simple. Donc, il y a des apprentis systématiques et automatiques. Une des stratégies possibles, c'est d'essayer de trouver une clé que la cellule, que la machinerie cellulaire utilise pour elle-même détenir cette information qui est connue dans la donnée. Donc, par des moyens informatiques, cette fois. Donc, ce travail d'annotation des gènes a été la principale occupation de centaines de biologistes pendant plus de 10 ans, au moment de l'événement du séquençage des génomes humains. Parce qu'on savait qu'on allait avoir tout un bientôt, mais on était incapable de trouver les gènes. C'est très intéressant. Donc, il fallait finalement une course un petit peu au développement de nouvelles méthodes qui sont plus simples pour découvrir la connaissance des gènes. Donc, on a un challenge, on a une séquence dans un ordinateur qui est exactement comme celle que vous avez à l'écran, on a aussi de la connaissance des gènes, et il faut y trouver les gènes. Donc, quand on regarde un petit peu plus près la gène, donc c'est composé d'exons et d'introns. Les exons qui sont synthèse des protéines, ça contient l'information utile pour la synthèse des protéines. Si on regarde encore un petit peu plus près, ici à gauche, le premier élément, si vous avez dit le premier intron, puis je vais couper un petit peu, il y a un exon du milieu, et puis le dernier. Si on regarde un petit peu plus près, le premier exon commence par les bases protégées. Et c'est une règle qui a été introduite dans le monde vivant, où les gènes commencent au début. Le premier exon commence par mais toujours par TMG, ce sont des cas inévitables. Et donc, une boîte secours pour les informaticiens, ils disent qu'on est en train de protéger, il y a une chance de voir le même débuter. Il y a un premier pas. Et puis, à la fin, on a TMG, et ça, c'est également une information très intéressante, parce que tous les gènes, de tous les eucaryotes, terminent par TGA, ou TAG, ou TRA. Un des trois, une des trois combinaisons, donc les gènes qui sont TGA, TAG, donc, on a beaucoup dans le génome, mais si on sait qu'on commence toujours par un TG ou une de ces trois terminées, ça réduit déjà les possibilités. Si on regarde le génome un petit peu plus près, on voit que tous les introns commencent toujours par GP. 99,9% des cas, c'est GP et AG à la fin. Donc, ça, c'est des informations essentielles pour commencer à positionner le génome. Donc, on n'est pas capable de lecture d'utiliser la cellule pour savoir un petit peu comment se termine une information utile. On connaît une première partie ici. Donc, déjà beaucoup de travail
une protéine, et là c'est un ARN intermédiaire qui est lié, qui est une copie des gènes. Donc, si j'arrive à extraire l'ARN de cellule, et le présenter, j'aurai une séquence qui est spécifique des gènes. Donc, on va éventuellement le problème de la connexion de ces gènes. Si on regarde un petit peu plus en détail, ici on voit donc une cellule avec son noyau contenant le chromosome, donc l'ADN humain, et ici on a donc une molécule d'ADN schématisée avec un petit gène de deux exons. Les exons sont en rouge, sont séparés par un point de l'humain en jaune. Et donc, dans le dogme dont j'ai parlé tout à l'heure, la première étape c'est de synthétiser une molécule d'ARN, copie de cette molécule d'ADN. Et une étape importante de la non-correction de cet ARN, c'est l'excision de l'intron, de tous les introns du gène. Donc les introns vont se retrouver du tabou et être exportés sous cette forme à l'extérieur du noyau dans l'espace intracellulaire, le cytoplasme pour être lu par une autre machinerie moléculaire qui va synthétiser le protéine. Donc si j'arrive à isoler cet ARN qui ne contient pas les exons, et ensuite j'ai la séquence pour retrouver dans le génome, je pourrais retrouver du premier tabou à 25% d'informations noyées dans les 90% d'informations qui ne sont pas détectées. Donc, c'est un trait de l'ARN en s'inspirant depuis 20 ans. Donc, ce n'était pas une étape limitante. Et si on s'est passé le petit bout d'ARN qui a été motivé, et puis, l'étape plus claire qui reste à faire, c'est de retrouver des positions dans le génome, dans les 3 milliards de base. Ça, c'est une opération extrêmement compliquée. Si on le travaille bien fait, normalement, on va retrouver une séquence exactement identique dans le canon, et pas mal parapégé, puisque il s'agit d'un gène, avec des GT et des AG au bord des régions non alignées dans le canon. Et puis le dernier codon dans le triplet de mon ARN va être PA, PAG, PG, dans le 3. Donc le problème, là, est vraiment informatique. Comment retrouver une séquence de mettant sans base dans 3 milliards. Pour vous donner une image, si vous prenez le nom de tous les gens qui habitent en France, de tous les gens qui habitent en Allemagne, vous les mettez les uns au-dessus des autres sans les espaces. Et puis maintenant, vous les mettez dans des ordres. Donc vous pouvez créer un équipement comme dans le cas. Et alors, vous essayez de trouver votre propre nom et votre propre prénom dans cette liste, qui donne une idée de la page qui est à. Et c'est la raison pour retrouver la base dans un génome. Donc, une opération routine, si on veut, pour trouver la position de l'intranet du génome. Donc, dans cette objectif, on a voulu qu'on était développé, c'est un BLAST. C'est un pilier de l'informatique dans le monde aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu les détails comme les questions, parce que c'est très intéressant. Donc, il a été développé en 1990 par les informaticiens dans les États-Unis. Et leur article a été cité depuis plus de 23 000 fois. C'est énorme, donc on sait qu'en moyenne, un article en biologie moléculaire, en génétique, c'est en moyenne 24 fois. Et maintenant, 23 000 fois, c'est une fois plus, c'est l'article le plus utilisé dans la biologie en génétique. Et c'est un petit logiciel le plus utilisé dans le sens du genre de par le monde. Donc vraiment, une pierre d'angle de toute l'analyse du génome. Donc, on a un problème, et on va retrouver dans ce qu'on a donné, comment je fais. BLAST commence par prendre votre requête, donc la petite séquence, et va la découper en mots d'une taille prédéterminée que vous imposez au programme. C'est un paramètre, le programme qu'on appelle le paramètre W par défaut, il fait 11 bases. Donc, à un moment donné du processus, il faut qu'on soit en train d'examiner cette partie-là de 11 bases, c'est à l'écran, et donc BLAST va prendre ces 11 bases et chercher un autre exact, une identité parfaite dans le génome. Dans le génome, il est juste à l'écran. Une fois qu'il a trouvé cet encre, il y a la deuxième étape qui va être réalisée, qui va être d'essayer d'étendre de chaque côté pour voir si l'identité continue. Et pour cela, BLAST va utiliser une matrice de score, un nom un peu barbare pour décrire simplement un tableau. À double entrée, on a les APGC ici, les APGC ici, et un score. Caractériser ce qui est réduit entre le point de repère et les différentes cibles de génome humain, par exemple. Donc, un A qui est un A, 25 points. servir pour étendre dans le côté et déterminer si un côté est sain ou un côté à chacune des positions. Donc là, on va compter d'abord mon 4 et mon 4, et puis ensuite on va compter le 5 et le 5. Et donc là, il y a un deuxième paramètre qui entre en jeu, paramètre de tout ce qui est un scale. Parce que là, on va faire la somme des scores consécutifs rencontrés dans des endroits où il n'y a pas d'identité. Donc là, mon 4 et mon 4, c'est moins 8. Donc là, ici, il y a qu'il y ait moins 8 de score négatif dans cette petite région où il n'y a pas d'identité. Et tant que cette somme ne dépasse pas moins 21, les voies se continuent à éliminer de part et d'autre. L'extension de l'analyse est remise à 0 dès qu'elle rencontre un match. Donc si on repart de 0, on continue, on peut bien, et puis on va voir que l'on va recommencer à accumuler des scores négatifs. Si on donne un 1 strict, donc un chiffre consécutif, on va arriver dans un 24, on va dépasser le seuil, et la base s'en fait. On revient au même niveau, c'est ça qui est caché. Donc on parle de notre côté, on va aller à partir de l'encadrage de notre cours, qui est une opération très rapide. On va pouvoir ensuite étendre une avancée efficace pour faire frapper, voir si l'homologie continue, et si on a été de manière assez. Un processus très logique. Donc on a deux paramètres importants, la taille du mot initial et la taille de ce seuil, la valeur de ce seuil X qui va contrôler l'étendue de recherche. Donc, vous avez bien compris, si on veut la match exacte, c'est pour son identité, puisqu'il faut que ce seuil à 0. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de base différente, mais uniquement des extensions de part et d'autre. Donc, cet algorithme très efficace, aujourd'hui, c'est un algorithme, sur un ordinateur familial que vous achetez dans un supermarché, peut retrouver ce que vous avez même de 100 verres en 2 minutes, dans le même moment, en 3 milliards de verres. Vous voyez, c'est extrêmement puissant comme raisonnement, comme algorithme. Et utilisé tous les jours par des milliers de logiciels par le monde sur Internet. On a l'observation sur le monde, on va savoir exactement dans le canon, on va faire un test sur des serveurs qui sont sur Internet, dans lesquels il y a des mémoires, on peut permettre de faire cette analyse très rapidement. Donc pour résumer, si on relève ces cas à l'intelligence, on va combiner des informations. D'abord, on va faire des signaux, si nécessaire, mais pas suffisant. Et puis si possible, on va faire une information liée à l'application des gènes, des ARN. Les potentiels qui trouvent leur position dans les génomes et s'assurer qu'on retrouve bien ces stimulants au bon endroit, au bon moment de ces ARN. Les éléments pour l'accès, et une troisième couche d'information qui est extraite, qui vient cette fois-ci d'un autre champ, d'une discipline de l'informatique, la génie comparative. Donc, on va exploiter la séquence des génomes voisins de celui qu'on cherche à noter au cours de 15 dernières années. Bien au génome que le génome a été séquencé, comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, des bactéries, des organismes unicellulaires, mais aussi des organismes multicellulaires, le lapin, la mouche, l'aigle, la drosophile, l'humain, la souris, la poule, tout le cadastre a été séquencé, le lapin, le chien, le chat, le charpenté, même le humain, l'individuel, on a été séquencé. Et donc, ces ressources nouvelles ouvrent un nouveau champ d'œuvre. L'application de ces génomes, c'est le génome comparatif. On va donner des places à nouveau pour comparer les séquences d'ADN de génome. Et sur un concept que je vais lancer maintenant, on va trouver en une seule opération les gènes de deux génomes à la fois. Donc, je vais prendre un exemple. Maintenant, pendant une séquence, les génomes de la suite, et ici représenté avec le génome de l'espèce humaine dans l'arbre familial, on va dire, c'est la phylogénie des vertébrés. Donc on a les prochaines stiches, par terre de l'ancêtre, avec les tétrapodes, donc les mouches en partie, qui sont ici, qui incluent les amphibiens, les oiseaux, et puis les mammifères. Et si on retrouve les mammifères, l'humain et les souris partagent un ancêtre. La dame de l'ancêtre, elle était il y a environ 100 millions d'années, et puis dans leur contaminé, sans doute un mammifère, certainement un mammifère d'ailleurs, placentaire, avec des poils. Donc, si on s'intéresse justement à une des protéines qui est en composition des poils, on peut imaginer que cette protéine est encore la même chez la souris et chez l'humain, puisque le transport des ancêtres communs avec les poils aussi. Donc, le raisonnement le plus parcimonieux, c'est d'imaginer qu'on a gardé la même protéine pour faire la même chose. la quarantaine, c'est les parents que je prends. Et donc, on passe pour les acteurs de la quarantaine. On a toujours les mêmes instructions, mais c'est pas un problème, entre l'homme et la soirée. Donc, si je comprends le génome de la soirée, je m'attends à un moment donné à ce que mais donc, c'est une région fortement similaire, au moment où il n'apporte rien de gène de la quarantaine humaine pour éliminer sur le génome de la soirée ou par rapport à la quarantaine de la soirée. Je vais représenter ici cette région. Et je vais vous indiquer d'abord les régions qui sont différentes entre les deux, en rouge. Tout le reste, ce sont des bases qui sont identiques dans le monde de la souris. Et si on regarde un peu plus effectivement, vous voyez que les différences ne sont pas la partie du hasard dans la compétence. Il y a des régions qui sont un peu préservées de changement. Ce sont simplement des exemples. Les instructions qui vont servir à synthétiser la carotine n'ont pas été modifiées par l'évolution. En revanche, les régions flanquantes, c'est un amont de gènes, les intrants, elles ont pu muter, ont pu changer sans altérer les instructions qui servent à la synthèse de la carotine. Il n'y a qu'un seul changement dans la région de la phase courante de la protéine, c'est la synthétique. Et si on regarde tout ce qui est de chaque côté des studios dont je parlais tout à l'heure, on est arrivé avec une incroyable précision. Le début du premier exemple, qui est donc pendant ici, commence par apaiser. Puis dès qu'on se prend dans la région qui perd cette contrainte de préservation de la séquence, c'est bien on trouve un jet qui va être décomposition du premier emprunt. Et puis un peu plus loin, on retrouve un jet qui est à la fin de l'emprunt, on va démarrer le deuxième exemple. C'est une précision absolue. Dans tous les genoux de vertébrés et de prosépètes de cocottes. Donc, on peut ainsi généraliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la carotène, beaucoup d'autres fonctions du vivant sont similaires entre les mammifères, que ce soit la reproduction, le développement, en général, le fonctionnement du système nerveux, du système digestif, du système métabolique, tout ça, c'est assez similaire entre un cheval, un chat, une souris et un homme. Et donc, en fait, ces deux espèces ont environ le même nombre de gènes, entre 25 000, environ les mêmes fonctions. On peut dire que les mêmes fonctions sont occupées par les mêmes gènes, et donc, si on séquence le génome de souris, on peut aligner complètement entre tous les chromosomes humains, et espérer que les gènes ayant les mêmes fonctions vont se retrouver dans les mêmes autres, et dans une coopération, on retrouve donc les gènes dans les deux espèces. Combiné avec les signaux, combiné avec les ARN séquencés, on a une information très puissante pour trouver les gènes de manière très fiable. C'est ça qui est utilisé aujourd'hui. C'est trois ressources pour annoter les gènes de manière automatique dans les génomes, en combinant donc des sources biologiques et des sources informatiques. Et on peut même généraliser une étape plus loin en se disant que toutes les informations contenues dans les génomes sont utilisées par le génome, contenues dans les gènes, sont susceptibles d'être comparées au cours de l'évolution entre des espèces voisines. Et donc, la génomique comparative peut être un objet pour interroger les génomes et approcher tenter d'identifier ces régions fonctionnelles au sens général du terme, pas seulement pour protéger les protéines. Uniquement, on a les mêmes séquences sans avoir a priori sur le nombre de séquences. Donc, si on voit un petit peu les champs disciplinaires qui sont en enjeu ici, d'abord, un domaine purement informatique consiste à analyser le texte ADN. La biologie, c'est secondaire. On va rechercher des signaux. Donc, dans un alphabet, quand on utilise un alphabet, on va chercher une grammaire, la TG, GTAG, 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 et des signaux aussi statistiques, dont j'ai pas parlé, qui sont vraiment de la formation d'autres que les gens dans la séquence ADN. Donc, c'est l'informatique, utiliser un raisonnement algorithmique, et puis surtout les raisonnements mathématiques, beaucoup de statistiques, et donc, des méthodes qui sont très différentes de l'autre camp de ressources qui sont nécessaires à la notation automatique des gènes, qui sont la plus expérimentale, où on va échantillonner différents tissus de l'organisme que l'on cherche à explorer, des tissus du cerveau, de muscles, de peau, pour avoir les ARN qui correspondent aux gènes exprimés dans ces différents tissus, et puis réaligner sur le génome. Et la génome comparative vient pour ne pas rassurer le tout, permettre de retrouver les gènes qui sont entre les espèces et donc potentiellement fonctionnelles. Donc, vous avez vu, c'est quelque chose
technologie qui est vraie pour l'opération commerciale, de synthétiser des ARN dans beaucoup de tissus humains et les vendre contre le médicament contribuant aux biologistes. Et donc, forcément, les sociétés qui auraient le plus de jeunes dans leur base de données pourraient améliorer l'accès au public. Et donc, on va découvrir des postes de plus à propos de gestion des jeunes dans leur base de données, on a 150 000, on a 200 000. Et donc, à contrôle, parce qu'on ne savait pas les trouver. Et les gens ne le trouvaient pas parce qu'ils pensaient, donc c'était facile de. Thank you. que une conservation est très nette par rapport aux aliments, le plaisir de sang, par rapport aux aliments, voilà le point d'information. Donc là, j'ai une comparative, là, 200 euros, les articles du premier coup, où se trouvent les aliments végétaux. Alors que là, si les gènes, les gènes PL2, qui est lui, comme une protéine importante pour le développement du système vasculaire, pour le développement. Donc, le gène très important, une fonction très générale, et donc très bien conservée. Comme l'évolution, on a les chimpanzés aussi qui sont conservés sur toutes les espèces jusqu'à chez les poissons. Mais vous observerez qu'il y a une anomalie, on va dire, parce qu'il y a une région aussi au milieu de la croix, numéro 2, qui est extrêmement bien conservée dans la période de l'enfance. Donc, ça mérite de pencher sur le problème. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit ici. Plus haute résolution, j'ai été montré, le boîte rouge, ce sont les fameux triplets RG et GR, tandis que la femme RG. Voilà, vous voyez que la région, pour l'instant, c'est très conservé, on contient plusieurs. Donc, il y a aucun problème de ça, qui aurait été oublié. Il s'agit bien d'une région conservée, fonctionnelle, mais qui ne tape pas, qui ne parvient pas dans la transcription pour spécifier la fréquence de la protéine. Donc, là, il faut revenir à la biologie comme une expérience pour tester. Est-ce que cette région sera une région de régulation qui dirait aux gènes de la PAD ou est en se mettre en stabilité? Donc, pour ça, on prend cette région inconnue, on va faire une petite construction de l'étude moléculaire, on va mettre juste devant un gène qu'on va utiliser comme régulateur. On appelle l'AGZ. L'AGZ, ça c'est une protéine qu'on appelle la protéine d'AGZ, qui, quand on est en contact avec la bêta-lactamase, va donner un pigment bleu. Donc, toutes les cellules de l'AGZ vont être exprimées, et on espère que le contrôle de cette région inconnue, de certains interrupteurs, et bien on va voir les cellules bleues. Donc, on prend cette construction de l'ADN, on va l'injecter dans un embryon de souris, voilà, transférer cet embryon dans une souris adulte pour obtenir la gestation et la naissance et le sursaut. Et on va 21 jours plus tard, on peut prendre des tissus dans le cœur encéphalique du placenta pour examiner. Ou est-ce que la région inconnue a spécifié l'expression de la gène du gène de la gène. Et on voit, j'espère que vous le voyez, ici dans cette vitella, donc on fait partie du placenta, et dans les vertères, les veines, les veines de l'hôpital, des petites cellules bleues, exactement là où on a les parois de l'effet sanguin. Donc, la preuve est faite que cette région, indiquée par un flèche rouge, ne commençait pas du tout à synthétiser la protéine, l'information pour synthétiser la protéine GPA2, et par contre, la facilité aux gènes de s'exprimer au cours du développement de la mère dans les cellules qui vont former les vaisseaux sanguins de l'embryon en développement et du placenta et du cordon ombilical. Donc là, vraiment une association, pour faire une bonne illustration de la nécessité pour les premiers tests, on a une liste de bioinformatique, on a une comparative, l'alignement de séquence, qui identifie des régions potentiellement fonctionnelles et testées par des approches biologiques pour voir si c'est comment. Mais ça, l'informatique, la biologie a été diminuée parce qu'on ne peut pas tester toutes les régions du génome avec cette expérience extrêmement complexe, avec la brumeuse et la vente, que je sais que j'ai envie de faire. Donc pour conclure, séquencer les génomes. Identifier l'information telle qu'elle, dès le départ, nécessite une maîtrise de l'informatique, mais en laissant la main fréquemment à la biologie pour permettre d'interpréter les séquences de l'information qui est contenue dans la séquence. Voilà, je remercie beaucoup pour votre attention.
À bout à bout, les bases.
chaque molécule d'ADN, c'est vraiment selon le nombre de chromosomes. Est-ce que la question tient le bout?
Je le sens.
Dans le chromosome ne se fragmente pas.
Pourquoi pas?
Le chromosome ne se fragmente pas.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que
la fonction de ce moment-là, la molécule d'ADN reste en fil,
oui, chaque chromosome unique.
Oui, chaque chromosome reste en fil, continue au cours de la.
Il n'y a pas de fragmentation de l'assemblage dans la cellule au moment de la synthèse des chromosomes.
Il y a des moments où l'ADN est dans le chromosome, et puis. Cet ADN se continue dans un autre chromosome.
À un moment donné, si je prends l'exemple de l'homme, on a 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes.
Oui.
Chaque chromosome va se dupliquer, va se répliquer,
oui,
comme tu utilisais. Donc on va avoir temporairement le double.
Oui.
La cellule va se scinder en deux. Chaque chromosome va un chaque chromosome.
Les ADN continuent à constituer un seul fil.
Il y a 23 fils différents.
Un grand fil différent.
Oui.
Chaque chromosome est une seule molécule de bout en bout.
Ah, d'accord.
Vous avez indiqué que j'ai bien compris que la phylogénèse est une plante des arbres. Et les arguments qu'on peut avoir pour déterminer le génome. Est-ce que en relation à ça, c'est-à-dire que. Est-ce que les connaissances sur le génome ont permis des connaissances sur la phylogénèse?
Oui, c'est essentiel d'ailleurs. La présentation que j'ai donnée tout à l'heure de la phylogénèse des vertébrés est une des vues actuelles. Elle est encore débattue, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer l'ordre d'apparition des branches qui se succèdent de manière assez proche dans le temps. C'est un problème relatif. Donc, quelques millions d'années, on voit une explosion de diversité des mammifères il y a environ 100 millions d'années. Il y a encore des débats sur quel est apparu avant l'autre. Donc, même avec des précisions de différents problèmes de l'espèce, on n'a pas encore assez d'informations pour résoudre certains nœuds très connus, très compliqués de l'origine des vertébrés, et donc également de beaucoup d'autres domaines de vivant, même si la détermination de la séquence a quand même beaucoup d'ambiguïté dans les effets des temps de divergence beaucoup plus grands. Quand on est dans les points de divergence très rapprochés, il faudrait beaucoup de génomes pour pouvoir avoir le marqueur nécessaire à différencier l'apparition des différentes branches.
Dans votre propos, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot lecteur, le mot lecteur. Alors, une petite ambiguïté, cette lecture, elle s'effectue comment? Ça se passe comment le fait de lire? Le terme lecteur est assez proche de ce qu'on a en fait, c'est-à-dire que le texte, une supplémentaire de base, un TCG, dans un certain ordre, et donc on a une protéine qui arrive dans le noyau, qui se succède sur la molécule d'ADN, ce qu'on appelle une polymérase. Et bien, elle va se déplacer dans un sens bien défini, le lire dans cette première instruction. Et c'est la première, c'est-à-dire, en fait, c'est la fonction, ça va être synthétisée en ADN. Donc, ce qu'elle va faire, c'est reconnaître dans l'ordre ADN il y a un A, et dire, j'ai commencé mon ADN avec un A. On va prendre un A, donc il ne même pas très loin. Comment peut-être vous reconnaître le premier A? Comment reconnaître?
Oui, c'est une bonne question.
Je vais essayer d'avoir la réponse.
En fait, c'est les branches qui se reconnaissent entre elles. Et par A, on va forcément reconnaître en plasticité une complémentarité des bases. Un G va reconnaître par l'affinité moléculaire un A, et par une affinité pour un T, un G. Une affinité pour un seul et vice-versa. Donc, quand la double hélice va s'ouvrir pour un petit collègue en grand dessin artistique, la molécule d'ADN s'était ouverte comme une fermeture éclair, rouge, une fermeture éclair, et les protéines qui lisent l'ADN finalement vont mettre, vont ouvrir l'ADN tout simplement pour que le A puisse reconnaître le T qui soit libre dans
Et en fait, maintenant, on peut oublier ce qu'on a déjà écrit. À part des avantages pendant la grossesse, et bien éviter un doigt qu'il y ait des enfants qui vont naître et qui peuvent donc des paralympiques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que ça va être tout le temps dans la même chose, c'est qu'on a aussi connu peut-être parmi des maladies congénites. Des maladies génétiques congénites, parce que chaque année, les Français, comme beaucoup de gens, pour le moment, pour le temps, le problème, c'est qu'on a été mis comme un conseiller pour dire où on est, quand il faut qu'il y ait la recherche pour ce moment-là, à compte de cette raison, mais pour le problème, c'est pas le problème financier, c'est le problème scientifique.
C'est à moi de poser cette question, puisque c'est la responsabilité du programme. Vous le lisez mieux et vous venez surtout dans la deuxième partie, du 21 au 24 juin, où ces questions seront très précisément traitées, ainsi que dans, en partie dans la troisième partie. Là, pour la première partie, c'est je dirais l'état de la connaissance de manière fondamentale qui est traitée. Donc les questions que vous posez seront traitées. Ensuite, du 21 au 24 juin, puis du 4 au 8 juillet. Il y a bien dans l'âme, mais tout est là.
Pour moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Parce que là, je vais voir où votre exposé nous amène. C'est un peu très intéressant, mais. Est-ce que ça ne va pas servir à prépoter un peu les jeunes humains et ne sait pas jouer à la protection sociale et est-ce que ça ne risque pas de provoquer des mutations contrôlées dans les jeunes humains? Parce que comme vous le dites, vous avez injecté des phalanges avec tous les jeunes dans la souris, demain peut-être on fera dans l'homme. Pour moi, ça me gêne parce qu'il y a quand même une grande différence entre les jeunes humains et les autres jeunes. Les animaux, si vous dites que la souris a les mêmes gènes que les humains, je me demande pourquoi on ne parle pas de souris et pourquoi on n'a pas de développement mental comme nous. Il y a quand même une région des gènes qu'on ne pourra jamais explorer qui contient ce que moi j'appelle la conscience. Et la conscience, c'est une particularité qui appartient à l'être humain et qui ne peut pas être géographique pour moi.
Donc, question de beaucoup de sujets. Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Mais j'ai essayé de répondre en partie pour la réponse un peu plus à votre question. Évidemment, en ce qui concerne la notation de recouvrir, retrouver le biais de cette similarité entre les gènes partagés depuis l'ancêtre, dernier ancêtre commun des espèces, uniquement les gènes qui portent des fonctions communes encore entre les différentes espèces. Donc, ça exclut la fonction de cet outil, toutes les protéines qui, par exemple, sont spécifiques à l'être humain par rapport à la souris, qui sont en particulier utilisées dans le cerveau. Mais il n'y a pas que la souris à notre disposition, il y a également des primates, des animaux de macaques, de longtemps, du chimpanzé, ont été séquencés. Là, on s'approche beaucoup plus et on s'aperçoit finalement, il faut être humble, que le génome a très peu de gènes qui lui sont vraiment spécifiques. Donc, c'est sans doute le génome humain partage avec le génome de chimpanzé 92% de base génétique. La pouvoir apporter des protéines entre le chimpanzé et l'humain sont identiques. Donc, les faits qui sont différents ne sont pas un effet d'animaux. Une seule petite instruction sur les centaines. Donc, la différence fondamentale entre ces espèces ne va pas vraiment être dans la nature des protéines, mais dans la nature du fonctionnement du réseau de l'expression, tant que ces protéines doivent exprimer au bon moment. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On est encore aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, dans une approche très fonctionnelle. Comment ça fonctionne? On n'est pas en train de se poser la question pourquoi. Pourquoi il faut vraiment avoir des données d'évolution pour voir à quel moment se sont mis en place justement des fonctions cognitives spécifiques au génome. C'est-à-dire que c'est un peu de la même chose. la présente, pardon, dans le contenu, et qu'à partir de là, on va monter jusqu'à la séquence qui tournera pour le jeune. Est-ce qu'on a fait une liste de la formation? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités, mais comment faire la formation justement? C'est pas important, mais c'est pas plutôt faire partir de l'argent et puis de dire faire une partie de l'argent et de dire bon, est-ce que quand tu vas avoir une partie de l'argent?
Oui, c'est une possibilité. Le problème, c'est le d'abord technique, c'est qu'on s'est passé le problème, c'est très compliqué, très coûteux, très laborieux, c'est pas du tout aussi efficace que c'est comme ça de l'ARN. Pour obtenir la séquence de cette analyse de protéines, c'est encore assez compliqué. Il faut des outils qui sont n'ont pas de degré de précision de la séquence d'ADN. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, les combinaisons pour passer, on n'aurait pas parlé du code génétique, donc pour passer de la séquence en acéraminé à la séquence d'ADN, chaque acéraminé a trois bases qui sont nécessaires pour produire cette information, et on peut avoir des hémolymes, c'est-à-dire que il y a plusieurs codons qui peuvent être responsables de la synthèse de l'acide aminé. Donc, on peut regarder à l'envers, on parle des acides aminés, on ne sait pas, a priori, quelle séquence ADN va pouvoir déterminer ça. Ça se passe très précisément. On peut en savoir une parmi toutes les possibilités, mais pas celle qui est vraiment présente dans le génome. Donc, quand vous mettez vos codons, 300, 500, 1000, 2000 acides aminés, le combinateur est explosif et donc, on revient des protéines à un génome, mais pas celui qui est celui qui est dans l'ancien génome.
La question, ma question s'en va tout à fait sur la précédente. Bon, ce que je crois avoir bien compris, c'est que je pense que la situation de codons sur les gènes détermine la séquence d'acide aminé. Donc, on connaît bien la correspondance gène-protéine. Comment est-ce que pour autant on arrive à discriminer la correspondance gène-fonction, ou plutôt acide-protéine-fonction?
Donc, vous vous rappelez peut-être la présentation de Bernard Dujan, il avait tenté d'expliquer qu'il avait expliqué avec succès, je crois que. Dans le ministère, un gène, une protéine, une fonction n'est pas toujours réalisé, c'était souvent un gène, plusieurs protéines, multiples fonctions. Donc, la question, c'est à partir de cette inscription entre fixe qui est celle de la ADN, comment est-ce qu'on peut arriver à cette démultiplication des fonctions finalement. Il faut savoir que tous les apports qu'il y a dans la manière d'organiser 4 mètres, sur de longues étendues comme ça en ce moment, c'est que l'état fini, c'est ce qui va être expliqué aussi. Donc finalement, il n'y a aucun problème du point de vue de la complexité nécessaire dans le code de la gestion 4 pour des types de fonctions dont vous pourrez imaginer. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand on regarde la manière dont on organise ce code, on peut voir finalement qu'il y a des domaines, on appelle des domaines qui sont conservés entre les protéines, les fonctions voisines n'est pas identique. Par exemple, quand il faut une protéine, il va s'insérer dans une membrane. Une membrane, c'est très grave, c'est très délire, du point de vue des compositions, du point de vue physico-chimique, et donc, hydrophobe. Donc, la région de la protéine qui est insérée dans la membrane doit avoir des acides aminés hydrophobes. Cette région, ce domaine transmembranaire, et bien finalement, il va être coté par des acides aminés assez voisins, quel que soit la protéine, que ce soit un canal ionique. C'est une chaîne entre la membrane, ou bien fixer un ligand, on déclenche un signal à l'intérieur de la membrane. C'est des fonctions complètement différentes, mais à chaque fois qu'on passe à travers une membrane, et là, on va reconnaître des similarités. Donc, là, le fait que l'ADN peut coder une infinité de fonctions, on retrouve des domaines, des mots fonctionnels qui sont différents. Parce que finalement, les fonctions, les protéines utilisent un jeu de fonctions.
Il y a une contradiction que vous n'avez jamais réussi à trancher, et je vous pose la question dans les différents éléments qui sont là. Vous avez parlé du génome humain, et de vous dire par exemple que le génome humain a 98%. celui d'un autre individu. Donc, la question est la suivante. Entre les hormones de deux représentants de l'espèce humaine, le gouvernement par exemple, est-ce que pareil ou est-ce que pareil?
En fait, on va se poser cette question parce que le fait de ramener le gène humain à une seule entité, on va penser qu'on fait dans le métier, mais qui finalement ne reflète pas la réalité. Il y a tout à fait raison. Chaque gène humain, chaque personne, possède un génome différent des autres, à quelques bases près, on a pensé ce sont des bases, donc il y a un petit pourcentage, environ une sur mille, donc dans la séquence des chromosomes, une sur mille est variée d'un individu à l'autre, en France. Selon les populations, c'est pas tout à fait pareil, mais en France, en moyenne, une base sur mille est différente d'un individu à l'autre, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Parce que, ça fait quand même 99,99% des bases de notre génome, c'est pas identique à celle de notre voisin, c'est bien de la même espèce, bien des humains, mais il y a suffisamment de différences dans les bases pour expliquer les différences qu'on peut observer sur la taille, sur toutes les différences morphologiques qu'on peut voir. Donc, cette détection des polymorphismes entre les régions, c'est un minimum de bases de différences, c'est l'enjeu majeur de la génomique des prochaines années. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est qu'on va être capable de séquencer le génome de tout un chacun pour accepter l'argent, exactement comme on fait une prise de sang aujourd'hui, il y a des canons de sang avec la composition du sang, capable de prendre les échantillons scandales, de séquencer le génome de l'individu et de prédire les susceptibilités de chacun des individus, c'est pour ça que c'est personnalisé, à telle ou telle maladie dans la génomique. Donc, ces différences existent, elles sont cruciales pour comprendre la prévention de son humanité. Aujourd'hui, il existe une société aux États-Unis qui a été en partie financée par Google, parce que la femme du fondateur de Google est responsable de cette société, donc c'est une histoire, qui permet aujourd'hui de commander un petit kit de badigeons, exactement comme on fait la police scientifique, pour envoyer à cette société par la poste des extensions de votre ADN, en prenant plutôt des salives dans votre bouche. Et ils vont séquencer 5000 des positions commencées extrêmement différentes entre les individus. Donc, on peut quelques échantillons de variabilité qui existe entre individus, mais quand même un échantillon important, 5000, c'est un peu 4000 par contre, on peut 5000, 5000 millions. Et donc, avec ça, on va être capable de dire, bien, il y a 1000 générations des athées, des ancêtres, inuits, ou bien des ancêtres, pour les Américains, c'est très intéressant. Quelle est la fraction des différentes populations qui ont composé leurs ancêtres. On peut savoir avec ça aussi évidemment les prédispositions en pourcentage en risque pour les certitudes, tel ou tel cancer, tel ou telle maladie neurologique aussi. C'est quand même bizarre. Donc c'est ça l'actualité. On séquence pas encore le génome, mais on a quand même 5 millions de variants qui sont informatifs. Donc bientôt le génome, ce sera aussi le même courant, c'est une question de temps.
Sur une ici, 1 euro et le prix monsieur le carbone.
Donc, sur la façon de compter le nombre de gènes, quand on dit ton gène dans une espèce, le gène pour un gène intermédiaire, il y a plusieurs façons de mettre en œuvre. Le premier, le 5e, le 5e, le 5e, le 5e,
combinaisons possibles, mais quand même, en fait, tu as la même unité. Parce que toi-même, tu as le même début, c'est même pas toujours le même début, mais il y a quand même un point commun entre tous les organes qui chevauchent dans le génome. Donc on peut utiliser cette règle, qui est un peu une règle pour en arbre, qui est changé, mais que il y a 23 000 endroits dans le génome où une famille d'ORM qui se chevauche pour se régénérer. Merci de poser cette question, c'est un peu un point important. Le 3 milliards de dollars dans le génome, on a encore environ, dans le même moment, on a encore environ une base sur 100 000 qui est inconnue, dont on n'a pas réussi à identifier la nature. Et ça, le génome humain, c'est le mieux séquencé. Il y a moins d'erreurs de tous les génomes qu'on peut se penser sur les vertébrés. Il y a d'autres génomes où on a 5% d'erreurs, ou en tout cas 5% de bases inconnues. Comme on ne sait pas lesquelles, on a un à la place pour pouvoir quand même les analyser. Mais pour spécifique, on ne sait pas. On sait qu'il y a une base à cet endroit, on ne sait pas lesquelles. Bonsoir. J'ai une question à l'interprétation de savoir quelle est l'objectif pour éviter notre recherche dans le domaine de questions, en disant que vous avez besoin de les 10 mois pour que je ne sais pas si je vais créer des outils ou savoir ce que je pourrais vous apporter. Une question de futurologie, je suis très difficile de répondre. Oui, en fait, ce sont les besoins qui vont nous permettre de biologistes qui vont. Pour le besoin en outils informatiques. Et donc, les prochaines années, on voit vraiment une accélération du volume de cette langue qui va être déposée dans les bases de données. Donc, on va être en charge de performance dans les comportements de séquence. Donc, ça, c'est un des besoins qu'on peut voir sur le final de raison. Donc, les outils comme Blast, Blast maintenant est dépassé par un certain nombre d'outils plus rapides, mais moins précis. Monde de perspective dans la charge de séquences différentes, similaires, mais qui ont des problèmes de différence. Donc, le comportement de séquences est quand même encore aujourd'hui un domaine très nouveau. Dans l'informatique, c'est là où le développement le plus avancé est extrêmement important, c'est dans la biologie des systèmes, c'est-à-dire que dans la modélisation. Donc, on n'est pas vraiment dans l'informatique, disons, c'est la terre, manipuler les objets de l'origine, mais plutôt dans la conceptualisation. Comment est-ce que le réseau de régulation des gènes se met en place? Où sont les interrupteurs, où sont les gènes, où sont les cibles de tel gène qui va déclencher l'activité sur tel gène, qui va déclencher notre activité sur tel gène, avant finalement de produire une protéine? Et tout un réseau d'interaction entre les produits des gènes qui sont assez complexes, moderniser ça. Finalement, ça a construit un petit peu le réseau qui se trouve au sein de la cellule. Ça fait appel à des besoins d'algorithmes en particulier assez importants.
Bien, il y a Hugues Roscrevius. Merci beaucoup. Alors, demain, Bertrand Jordan, les nouvelles données sur la diversité génétique humaine réintroduisent-elles la notion de race? Transformant les fonds aussi. Merci.